Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon jeudi, j'espère que ça va bien pour vous. C'est Marianne Paquette au micro. Je suis avec vous pour les 30 prochaines minutes à ce micro de C'est bon pour la santé. Vous écoutez Canal M. Vous dire que depuis 2009, au Québec et au Canada, il y a un vaccin qui existe afin de prévenir le zona. Il est disponible pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Et c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression qu'on en parle davantage dans les dernières années de cette affection que l'on dit parfois très douloureuse et aussi plutôt fréquente. On estime qu'une personne sur trois va souffrir de zona au cours de sa vie. En fait, toutes les personnes qui ont eu la varicelle sont susceptibles de développer du zona et on parle ici de 95 % des gens. Ça fait pas mal de monde et j'en suis. Donc, ça m'intéressait comme sujet et on en parlera en deuxième partie d'émission avec notre infirmière en résidence, Jocelyne Gadebois. Et puis, pour toutes sortes de raisons, on associe souvent la performance sportive à une rigueur alimentaire, une rectitude, je dirais même. Et je parle ici de performance sportive, mais toutes sortes de performances. Hein. On dit mange bien pour réussir à l'école, mange bien pour bien performer au travail. Et ça, j'ai l'impression que ça amène un certain stress par rapport à ce que l'on ingère. Du moins, ça annule le plaisir de bouger, d'être actif et surtout de manger. Avoir à notre menu des aliments dits gourmands. Je parle ici de canard, de saucisse, de la crème. Est-ce que ça peut s'allier à un entraînement sportif, à performer dans le sport? Est-ce que c'est possible de faire les deux en même temps? Eh bien, Jean Soulard, célèbre chef connu ici du grand public, ainsi que Benoît Lamarche, lui, chercheur en nutrition et olympien, répondent oui à cette question et ils en parlent dans cette nouvelle publication sortie aux éditions La Presse, Le Soulard des sportifs. Benoît Lamarche est avec nous. Benoît Lamarche, bonjour.
Bonjour.
En fait, vous n'êtes pas vraiment avec nous, vous êtes du côté de Québec.
Oui.
Est-ce qu'il fait aussi beau à Québec qu'à Montréal aujourd'hui?
Beau soleil, mais c'est encore frisquet pour faire du vélo.
Et vous, vous vous entraînez pour le vélo, je pense, vous partez en Italie cet été.
Vous êtes bien informé, oui. On a sorti des boulamites, les vieux collègues du patinage de vitesse des années 80, puis on se fait un voyage d'amis pour aller... Justement, apprécier les plaisirs du sport, puis évidemment, en Italie, on va apprécier aussi beaucoup d'autres choses,
oui.
Dont l'espresso, la bonne bouffe, etc., etc.
Et de la bonne bouffe, on en parle également dans le Soulard des sportifs. Une centaine de recettes, oui, qui ont l'air tous très appétissantes, et en même temps, une centaine de recherches plutôt scientifiques, des conseils en nutrition, ça, c'est votre partie. Je pense, Benoît Lamarche, c'est vous qui avez appelé Jean Soulard pour lui demander de participer, de collaborer à ce livre-là. Comment ça s'est passé, la collaboration?
Oui, en fait, j'ai été audacieux. Je ne connaissais pas du tout Jean. On s'était entrecroisés au centre de recherche ici à l'INAF parce que Jean avait des implications avec d'autres membres de l'équipe de recherche. Et moi, j'avais ce fantasme-là d'écrire un livre qui répondrait à certaines questions pour le sportif. Le sportif, au départ, je m'intéresse évidemment à travers mes recherches à la performance de haut niveau, mais aussi pour le sportif de tous les jours, oui. le sportif récréatif. Et je savais que Jean était un sportif. Jean participait à des Ironman, il court, il fait de l'exercice presque tous les jours. Tout ça, mais je le connaissais pas. Donc, je l'ai appelé, puis il a accepté de me rencontrer. J'ai proposé mon projet. On était aux antipodes de la oui. vision du sport, parce que moi, je suis un maniaque de la mesure. Je mesure tout ce que je fais à la seconde, au mètre. Jean ne court pas de montre. Donc, on était vraiment aux antipodes, mais on s'est entendu sur l'intention de cet ouvrage-là, de faire un livre qui tournait autour du plaisir et de vanter les mérites du plaisir à travers l'alimentation dans le sport, ce qui est possible, à mon avis, à 100%. Et c'est ce qui a donné justement l'ouvrage là que vous avez, donc dont je suis très fier, et Jean aussi, qui démontre que c'est possible d'avoir du plaisir quand on fait du sport, du plaisir dans l'alimentation, même en faisant du sport, peu importe le niveau.
Oui, parce que dans les recettes, bon, peut-être que Jean Soulard a dû faire quelques compromis avec vous, mais il y a de la crème 15%, il y a du lard, oui. Il y a de la saucisse, donc ça a été une bonne entente entre vous deux tout de
oui,
même.
Oui, c'est sûr que on voulait pas non plus dénaturer l'artiste. Jean, c'est un artiste de la bonne bouffe, un artiste de la beauté gastronomique et tout ça, mais on voulait aussi avoir des plats qui correspondaient à certains besoins sportifs. Donc, avec Geneviève Masson, la nutritionniste qui faisait sa maîtrise avec moi à ce moment-là, on s'est entendu pour, sans dénaturer son travail, d'avoir certains guides qui permettaient de qualifier les recettes, qu'elles soient riches en, un peu plus riches en glucides ou un peu plus riches en protéines ou simplement équilibrées pour les différents types de sportifs. Le marathonien, le joueur de tennis, le joueur de hockey, la danseuse, etc. Donc, ça n'a pas été un compromis trop difficile à faire. Puis Jean avait des bonnes idées. Par exemple, à un moment donné, Geneviève disait, ben là, il manque un peu de protéines ici. Ben le sportif, comme vous l'avez dit, a tendance à aller chercher des choses très très spécifiques, une petite poudre de protéines, une petite poudre de glucides. Alors là, le Jean, lui, il dit, ben, on va mettre des noix, on va mettre des pacanes, on va aller chercher des sources de protéines alimentaires qui vont agrémenter le repas au lieu de mettre quelque chose que le sportif met généralement dans son assiette.
Vous en parlez justement des protéines dans ce livre. Vous vous attaquez à différents mythes également, Benoît Lamarche. Est-ce que le sportif a autant besoin de protéines qu'on le dit?
Bien, c'est un, j'appellerais même ça un fléau. Ouais. Et dans les niveaux de la haute performance, encore pire. C'est là qu'on le voit. On a l'impression, surtout dans les disciplines sportives où on a besoin de beaucoup de force, de puissance, des levées de poids, de la rapidité, de la course, des sprints, que c'est les protéines qui sont importantes. Puis alors que plus on fait de l'entraînement de haut niveau et surtout beaucoup de volume d'entraînement, ben notre meilleur ami, c'est le sucre, c'est les glucides, parce que c'est le principal carburant du muscle. Donc, à chaque fois qu'on ajoute des protéines dans notre diète, on déplace les glucides, les protéines remplacent les glucides dans l'alimentation, ce qui fait qu'il y a beaucoup de sportifs qui, finalement, ne consomment pas assez de glucides pour la quantité d'efforts qu'ils font. Donc, oui, les protéines, c'est important pour le sport, mais le substrat, le gaz, l'essence des muscles, c'est les glucides principalement, puis on a perdu ça en fait au cours du temps, là, complètement.
Mais peut-être que parce qu'en ce moment, le sucre a bien mauvaise presse, Benoît Lamarche.
Exact. C'est sûr qu'on a une phobie du sucre à tort ou à raison. Il y a plusieurs écoles. Il n'y a aucun doute que consommer trop de sucre, c'est néfaste pour la santé, mais consommer trop de pas mal tout, c'est néfaste pour la santé. Ça amène un balancier qui va peut-être des fois un peu trop loin. Puis l'exemple du gras, c'en est un bon exemple. On a tapé sur le gras dans les années 80 pour dire que ça causait l'obésité, tout ça. Puis on s'est rendu compte que finalement, c'était pas ça le pire. C'est la qualité des gras qui est importante. Donc, peut-être qu'on va faire le même constat dans 10 ans par rapport au sucre, de dire, bon, c'est peut-être on est allé un peu trop fort. Mais dans le domaine du sport, le sucre, c'est pas un ennemi à battre, là. Pour certaines disciplines, c'est même c'est un élément de survie.
Oui. Et justement, bon, vous le disiez tout à l'heure, vous avez abordé les différentes disciplines avec les différents besoins. Je vais trouver la page là sous les yeux, mais bon, il y a le marathonien, entre autres choses, il y a le vieillissant, le déchaîné, le coéquipier. Donc, chaque discipline ou, bon, chaque activité physique demande ses besoins différents.
Oui. On a classé, on a départagé un peu les besoins nutritionnels en fonction de grandes catégories de sport. Vous l'avez mentionné, il y a ceux qui courent ou ceux qui font des épreuves d'endurance. On les a appelés les marathoniens, mais ça peut être en vélo, en ski de fond. On a les gens qui font plus des épreuves de type sprint. On les a appelés les déchaînés. On a utilisé des qualificatifs là, pour, après ça, départager le genre de diète ou de recettes qui allait bien avec différents types de pratiques sportives. Donc, le livre essaie de fournir une explication un peu scientifique, mais vulgarisée beaucoup. Pour pourquoi manger telle chose, à quel moment et comment. Donc, ouais. Après ça, bien, les recettes permettent de le faire de façon pratique.
Oui. Vous lancez aussi un cri du cœur, Benoît, dans ce livre-là. Et j'avais envie de le souligner parce que je trouve que c'est important. Tout ce qui est lié au poids, à la perte de poids, et vous dites, si vous êtes un entraîneur, un adulte signifiant auprès d'un jeune sportif, faites attention aux termes que vous employez.
Oui. On a fait des projets dans ce domaine-là chez des jeunes filles au secondaire sur la préoccupation autour du poids, des projets aussi en ce moment chez les athlètes de haut niveau. Puis les gens, des fois même sans malice ou sans s'en rendre compte, vont... Le poids, c'est quelque chose qu'on note, hein, qu'on voit, qu'on sur lequel on peut porter un jugement assez facile. Dans certains sports, les athlètes sont, comme la natation, sont en costume de bain. Donc, oui. C'est facile de voir un léger surplus de poids. Puis on se rend pas compte de l'importance de ces commentaires-là sur la psychologie du jeune ou de la personne qui les subit, parce qu'elle les subit. Puis pour certains, ça ne dérange pas, mais pour plusieurs personnes, ça peut être très touchant, ça peut être très malaisant, puis ça peut les amener sur des pistes de comportement alimentaire un peu déviants. Puis on s'en rend pas compte, mais il faut être vraiment prudent par rapport à ça. Puis ça prend des personnes qui ont les compétences pour gérer ces problèmes-là et non pas le premier venu qui va dire « bon, ben il faut faire ci, il faut faire ça, ou il faut perdre du poids simplement ». Donc c'est un terrain très, très glissant. Puis moi, juste en parler, j'ai des frissons parce que j'ai vu beaucoup de jeunes déraper complètement parce que simplement, on leur avait dit « ben peut-être tu perdais quelques livres, ça t'aiderait ». C'était pas mal l'objectif était pas malsain, mais ça mène à des conséquences malsaines.
Oui, et après, ça peut avoir des impacts tout au long du développement du sportif.
On traîne ça toute notre vie après pour la plupart de ces gens-là. Puis Dieu sait qu'il y en a du monde qui sont préoccupés par leur poids, par leur alimentation. Vous l'avez dit en introduction, on est un peu stressé par rapport à l'alimentation. Nous, ce qu'on essaie de vendre comme concept, c'est la quiétude alimentaire, c'est d'être en paix avec soi-même, d'apprécier ce qu'on mange puis de ne pas tout compter.
Oui. Justement, lorsque l'on est un parent, pour les parents qui nous écoutent, si vous accompagnez un jeune sportif, que ce soit pour le préparer à des niveaux plus élevés ou juste pour le plaisir, qu'est-ce qu'on devrait garder en tête?
Bien, en fait, je le mentionne dans le livre en introduction, puis c'est une image, je pense, quand les gens la voient, ils se posent des questions, puis ils disent « oui, c'est vrai, j'ai pas vu ça comme ça », mais premièrement, faut pas que l'alimentation soit un stress, ça c'est sûr. Alors, si l'enfant ou l'athlète a pas faim, faut pas le forcer à manger parce qu'on pense que c'est mieux pour lui de manger. Donc, faut écouter les besoins de chaque individu. Mmh. L'autre chose qui est importante, c'est que, puis je le donne un exemple justement dans le livre, c'est quand un athlète est blessé ou un jeune est blessé, on va le faire voir un physio. Quand il est malade, on va le faire voir un médecin. Mais quand on parle de nutrition, tout à coup, tout le monde est expert, alors qu'il faudrait se tourner vers des gens qui connaissent ça, les nutritionnistes qui ont une expertise en nutrition sportive. On dirait que ça s'est perdu. C'est correct que le coach donne des conseils en nutrition, même s'il n'y a pas les compétences, ou le parent qui donne des conseils à d'autres athlètes. Donc, ça, c'est pas un bon comportement. Il faut se tourner vers des gens qui ont les compétences pour ça. On le ferait pas pour un physiothérapeute. Qu'on le fait pour la nutrition.
Oui. Votre livre aussi est parsemé de petits commentaires, Sylvie, de témoignages, je dirais, Sylvie Bernier, entre autres choses. C'est un apport que j'ai trouvé très intéressant aussi d'entrer en communication avec des athlètes olympiques pour parler de leur vécu. Ça amène un plus au livre.
Bien, moi, je voulais donner justement la perspective que ces athlètes-là qu'on admire puis qu'on pense qu'ils sont des papes de la saine alimentation ont leurs préoccupations, ont leurs difficultés, ont leurs barrières aussi à la saine alimentation puis à leur alimentation comme athlètes. Puis c'est des exemples justement qui reflètent bien que à quelque part, il faut être zen dans tout ça. Puis un athlète, moi, j'ai toujours pensé, puis là, on parle d'athlète olympien, un athlète qui est heureux puis qui est bien dans sa peau, puis on mange trois fois par jour. Fait que si on est malheureux par rapport à la bouffe, ça arrive souvent, ça revient souvent. Mais un athlète qui est heureux puis qui est bien va mieux performer. Donc, il faut trouver une zone de confort là-dedans, puis les témoignages reflètent un peu ça.
Oui, tout à fait. Aussi, bon, vous êtes un scientifique, Benoît Lamarche, chercheur en nutrition. Vous avez également été un athlète de haut niveau, un athlète d'élite, plus particulièrement dans les années 80. De quelle façon la place de la nutrition s'est modifiée dans les 20 dernières années?
Ben, je dirais que on pourrait même reculer dans les 30.
Ouais.
Ça me ramène aussi loin que ça. J'ai fait une blague à un moment donné en disant que le livre de nutrition sportive que vous avez en main, là, qui a 200 pages, avait à peu près 3 pages à mon époque. Il n'y avait pas beaucoup de concepts véhiculés autour de la nutrition sportive. Nous, on mangeait juste pour être certain d'avoir assez de calories puis pas de perte de poids. Le concept de nutrition sportive s'est sophistiqué énormément. Ce qui est excellent pour les athlètes de haut niveau. Des fois, on pousse peut-être un peu trop loin. On oublie que la base de la performance par l'alimentation, c'est justement les repas tous les jours et non pas le petit supplément qu'il faut prendre de temps en temps. Mais je pense qu'il y a un effet pervers aussi, dans le sens que là, c'est monsieur, madame, tout le monde qui fait sa randonnée en ski ou en vélo ou à la course de temps en temps qui devient un peu obnubilé par la performance via la nutrition, alors que c'est possible de bien manger, puis de parce qu'on s'attend là qu'on s'entend que c'est pas des performances olympiques pour monsieur madame tout le monde, mais on dirait que la prescription nutritionnelle devient prend le dessus sur le plaisir. Donc je pense que pour l'Olympien ça va beaucoup de conseils, beaucoup d'informations scientifiques. Pour monsieur, madame, tout le monde, on peut se rabattre sur des aspects plus généraux de plaisir puis d'apport général en glucides et en protéines.
Et je trouve que le Soulard des sportifs, ça allie ces deux intérêts, c'est-à-dire d'un côté des conseils beaucoup plus scientifiques amenés dans les 100 premières pages, je dirais, puis après les recettes proposées par Jean Soulard. Donc, une publication, un ouvrage très complet proposé par les éditions La Presse. Benoît Lamarche, je vous laisse filer. Je rappelle, vous êtes chercheur en nutrition et également olympien. Puis, je vous souhaite un très, très beau voyage en Italie.
Merci. C'est certain qu'on va avoir beaucoup de plaisir.
Au revoir.
Merci.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Bonjour, Jocelyne.
Bonjour. Bonjour, Marianne.
Jocelyne Gadebois, infirmière, qui est avec nous de façon bimensuelle. Et aujourd'hui, le Zona qui fait parler de lui, je dirais, de plus en plus dans les dernières années, peut-être à cause ou grâce à l'apparition de ce vaccin.
Exactement.
Et on en parle plus, mais aussi parce que ça fait peur, parce qu'on le dit, très, très douloureux, ce Zona. Oh,
absolument. C'est très douloureux. Des lésions de Zona. Mais commençons par le début.
Oui. Hein?
Qu'est-ce que c'est que le Zona? Mm-hmm. D'abord, il faut déjà avoir eu la varicelle pour avoir le Zona. Qu'est-ce qui se produit dans le corps? C'est qu'après avoir guéri la varicelle, quelques petits virus dormants restent dans les ganglions. Alors, quelques petits virus dormants.
Et ça pour tout le monde?
Pour tout le monde.
OK.
Alors, certains facteurs peuvent faire que, par exemple, ces petits virus-là reviennent à la vie si le système immunitaire n'est plus capable de les combattre.
Mm-hmm.
Ou, par exemple, des personnes avec une déficience immunitaire aussi qui peut
VIH,
diminuer.
VIH, par exemple.
Exactement. Des personnes plus vulnérables comme celle-là.
Mm-hmm.
Mais saviez-vous que dans le monde entier, là, il y a à peu près 90 % des personnes qui ont déjà eu la varicelle.
Donc, ça fait bien des gens qui sont susceptibles d'avoir du Zona plus tard.
Absolument. Et aussi, il y a 20 % d'entre eux seulement qui vont avoir possibilité de Zona. Alors, 90 % de personnes qui ont eu la varicelle, puis il y en a 20 % d'entre eux qui pourraient avoir une réactivation du virus.
Les causes, donc, un système immunitaire déficient.
Oui.
Mais en même temps, est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres? Parce que des fois, j'imagine, c'est un petit peu difficile à expliquer. Ça surgit, puis on ne sait pas nécessairement ça sort d'où.
Bien, il paraît-il qu'avec l'âge, ça pourrait se réactiver. On parle de 60 à 70 ans quand même.
OK.
Où il y a vraiment, comme plusieurs personnes là, qui se retrouvent à avoir le zona à ces âges-là parce qu'ils vieillissent, puis que leur petit virus dormant se réveille et qu'ils ne sont pas capables de le combattre. Oui. Et puis, après 70 ans, c'est aussi possible parce qu'on vieillit encore plus. Oui. Alors, les maladies aussi, comme le diabète, certaines maladies comme l'insuffisance rénale ou toutes sortes de maladies là, qui nous affaiblissent puis qui font que nos énergies vont vraiment nous diminuer à combattre ce genre de virus.
Est-ce que c'est contagieux?
Oui, c'est contagieux. Mais pas dans l'air, puis pas quand on tousse, pas de cette façon-là. Okay. Je peux être dans la même pièce que vous, puis je vais pas l'attraper. OK? Alors, c'est une contagion de contact. Mm-hmm. Alors, ça veut dire...
Comme un feu sauvage.
Oui.
OK.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai pas dit là, que ça suivait un nerf ou un ganglion, tu sais, un système de ganglion. Ça peut affecter juste une moitié de corps. Ça peut partir en dessous du sein, puis faire comme une couronne jusque dans le milieu du dos. Et ça suit un nerf comme ça. Mais il y en a qui l'ont malheureusement dans le visage. Mm-hmm. Tu sais, le nerf part du cou, puis là, il va jusqu'à... Puis là, c'est dangereux pour les yeux.
Oui.
Là, il peut y avoir une complication puis devenir vraiment aveugle de ce côté-là. Ça fait que ce que je veux dire avant de parler de quoi votre question déjà?
La contagion.
La contagion. Oui. Avant de parler plus de la contagion, c'est qu'il faut consulter dès le début des symptômes. Dès le début qu'on pense avoir le zona, faut vraiment aller consulter. Okay. Parce que c'est là le secret du traitement. Alors, on reparle de la contagion par contact. Ce sont comme la varicelle, une petite bulle avec un liquide dedans. C'est ça qui est contagieux. Alors, faut pas les gratter puis les envoyer ailleurs.
Ouais.
Si je vous touche, ben c'est sûr que
Plus de risque.
Il y a plus de risque. Ouais. Alors, faut que je lave mes mains. Tout simplement, le plus souvent possible quand je suis en contact avec une personne qui a ça, parce que je risque de toucher sa main, je risque de toucher son bras, des choses comme ça. Oui. Alors,
vous parliez, Jocelyne, de consulter rapidement. Est-ce que ça s'identifie facilement, le zona?
Oui. Au début, là, on va sentir une démangeaison, picotement, puis on voit que ça suit
un trajet.
Oui. C'est ciblé dans le corps. Effectivement. Puis là, tu vas dire, qu'est-ce que c'est ça? Tu ne sauras pas c'est quoi? Puis là, tu vas dire, ça pique, ça démange. C'est une rougeur qui va s'installer, une réaction inflammatoire le long d'un nerf. C'est pour ça que ça peut se compliquer en névralgie qui dure plus longtemps après la période là, de...
Parce que ça s'attaque au nerf, on pourrait dire.
Oui, okay. puis des fois, le nerf, il devient comme plus... Je dirais, les conductions ne donnent pas les bons messages. C'est comme le nerf devient mélangé, on va le dire comme ça. Ces fibres nerveuses, là, ils ne répondent pas aux stimuli de la même façon, puis ils envoient des messages tout confus. Mm-hmm. Alors, ça, c'est dans la névralgie qui va suivre si elle se produit.
Oui, oui.
Si les nerfs sont vraiment atteints, sont vraiment
faibles.
Si le
traitement n'arrive pas suffisamment tôt, on traite comment, justement?
On traite avec des antiviraux.
Okay.
Alors, plus vite on va avoir des antiviraux, bien, plus vite la maladie va se raccourcir et aussi les symptômes vont être moins aigus.
Oui.
Et on pourrait prévenir cette fameuse névralgie-là qui, pour certaines personnes, savez-vous, peuvent durer toute la vie après.
Hey, non, c'est Alors, sûr qu'on ne souhaite pas ça.
On ne veut pas.
Pendant le traitement... admettons, on a réussi à avoir un médecin assez tôt, on a un diagnostic, on a notre traitement, mais il y a quand même une douleur là, qui s'installe avant la guérison.
Oui.
On peut soulager cette douleur-là de quelle façon à la maison?
Bon. Alors, au niveau des démangeaisons, puis au niveau des petites cloches d'eau, là, les petites bulles, le liquide et ensuite ça vient une croûte, on peut mettre des compresses fraîches, des compresses d'eau fraîche, aussi souvent qu'on en a besoin. Ça, c'est la première chose. Les choses qu'on peut faire à la maison. Des bains dans le bicarbonate de soude, de la calamine.
Mm-hmm.
Toutes les choses là, qu'on peut s'appliquer pour diminuer les démangeaisons. Évidemment, ça va durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, pas plus que ça. Donc, on recommence.
Advil, Tylenol?
On peut donner des analgésiques, absolument. Okay. Si Advil, Tylenol, c'est pas assez fort, le médecin va en donner d'autres, mm-hmm. si ça fait vraiment mal. On va donner aussi des anti-inflammatoires avec un peu de cortisone, parfois, dedans, pour réduire l'inflammation. Et puis, on peut aussi même donner, quand c'est à long terme, là, vraiment, puis que les traitements sont très aigus, là, un petit peu d'antidépresseurs. Parce que c'est pas vivable. C'est pas vivable, vivre avec le zona longtemps, surtout cette névralgie dont je vous parlais tantôt.
Pour prévenir, il existe, on le disait tout à l'heure, le vaccin qui est disponible pour les personnes de 60 ans et plus, je crois.
Oui, tout à fait.
Seulement...
En privé.
En privé, donc, il coûte un certain montant.
150 $
OK.
Ça, c'est le dernier montant que je sais, là. Il a peut-être augmenté un peu, mais ça fait pas longtemps qu'on a ce vaccin-là.
2009,
exactement. Oui. Puis, on n'a pas encore fait assez d'études épidémiologiques pour les résultats. Donc, ce qu'on en sait pour l'instant, c'est qu'il pourrait réduire de moitié la venue du zona. Puis, il pourrait prévenir les névralgies par la suite.
C'est déjà beaucoup. Oui. On vous gardait un petit peu plus longtemps aujourd'hui, Jocelyne, parce que, d'une part, on voulait parler du zona, qui est préoccupant, dont on parle de plus en plus, je le disais tantôt, mais aussi de varicelle, parce que ça me semble un peu lié. Est-ce que ce sont deux virus qui sont semblables? C'est pas le même virus, je pense,
c'est
d'abord.
C'est le même virus.
C'est le même virus.
C'est le virus de la varicelle. Bien, le virus du zona, qui est dormant, là, puis qui se réveille, là, bien, on l'appelle, lui, varicelle zona. VVZ.
Mm-hmm. Est-ce qu'un grand-parent, un grand-papa, une grand-maman atteint de zona peut contaminer son petit-enfant qui n'a pas eu encore la varicelle?
Bien, par le contact.
Ah oui, hein?
Tout à fait, par le contact. Oui. Mais on dit que quelqu'un qui a eu la varicelle et qui serait en contact avec une autre personne, soit le zona ou la varicelle, mm-hmm. ça pourrait aussi... Quand tu es en bonne santé, une bonne immunité puis une bonne défense de son corps, ben ça pourrait augmenter son immunité de sorte que préviendrait.
Mm-hmm.
Ça préviendrait. Ça, j'ai lu ça.
C'est bon pour bien des parents,
notes.
Oui. Ça. Donc, oui, bien des parents qui ont eu la varicelle et qui sont en contact avec leurs enfants qui ont eux-mêmes la varicelle.
Oui.
Le vaccin de la varicelle existe maintenant.
Oui.
C'est assez récent, ça, Jocelyne.
Oui, c'est assez récent. En fait, je l'avais la date, là. Attendez un petit peu.
Maintenant, vous ne l'avez pas sous les yeux.
Non, c'est ça. Ça ne me revient pas, là, la date exactement, mais vraiment, c'est au Canada, je l'ai, au Canada en 1998, puis en 2004 en France qu'il est administré.
OK. Et il est obligatoire, ce vaccin?
Non.
Il n'est pas obligatoire.
Okay. C'est vraiment une décision personnelle. Votre médecin pourrait vous recommander de vous faire vacciner, mais sachez que ça a un coût, mais je pense que ça vaut la peine.
Ouais. Oui, je voulais avoir votre avis d'infirmière là-dessus.
Moi, je pense que ça vaut la peine parce que c'est très douloureux. La qualité de vie est diminuée quand on a le zona. Puis on ne sait pas si on va avoir une névralgie après puis que ça va durer longtemps.
Puis la varicelle, même chose?
La varicelle, c'est donné obligatoirement.
Ah, c'est ça, c'était ça ma question.
C'est la varicelle.
Voilà. Je parlais de la varicelle, moi.
Oui, bien, la varicelle, tous les enfants sont vaccinés au Québec.
Ah, voilà.
À la base, mais pas le zona.
Donc, une façon d'éviter d'avoir le zona si on a eu le vaccin de la varicelle.
Oui, tout à fait. Les gens sont protégés.
Merci, Jocelyne Gadebois.
Bien, ça me fait plaisir.
Jean-Sébastien Laliberté à la console, merci. Marianne Paquette au micro, on se donne rendez-vous demain. Non, on se donne pas rendez-vous demain. On se donne rendez-vous lundi. Portez-vous bien. Bye-bye.